cinema.
Ma chi è? Nel momento
un cinema qui toujours innove, qui expérimente et qui soit le reflet de son temps.
City as a character within the movie. And I would
say c'est une bonne tournée très vite, je crois. En général assez vite. Oui. Moi je trouve pas, je trouve que les autres qui tournent assez lentement.
Cinema. Cinema, oui, je sens ça, je suis cinema. Cinema.
Heures, vous écoutez Radio Grenouille et c'est l'heure du CID Mag en direct depuis la Criée. Voici le magazine du CID, Festival International de Cinéma. Un festival qui se poursuit allègrement et se conclura demain avec la remise des différents prix pour les films en compétition, premier prix national et international. Une compétition qui, sans doute, revêt un enjeu important pour les producteurs et les réalisateurs. Fort de ses 23 années d'existence et de l'opiniâtreté de son soutien à la création, le FID fait désormais partie du petit nombre des grands festivals internationaux de cinéma. Et une sélection, voire une distinction, peut réellement booster la distribution d'un film et sa possibilité d'être vu d'un large public, ici et ailleurs. Ici et ailleurs, c'est un peu le thème de cet avant-dernier FID Mag de la 23e édition du FID, dans lequel, pour une fois, nos invités ne viennent pas parler de leurs films, mais des films des autres, puisqu'ils sont programmateurs et directeurs de festivals de cinéma dans des pays riverains de la Méditerranée. On accueille sur ce plateau Nourdine Bendriss, qui représente le Festival international de cinéma de la Méditerranée, à Tétouan, au Maroc. Du Maroc encore, mais à Agadir, Hicham Fala anime le FIDADOC, un festival fondé par Neza Drissi, hélas, je crois, disparu au mois de décembre dernier. Et enfin, Hicham Ben Ammar fait circuler des films dans la caravane documentaire qui irrigue toute la Tunisie depuis la petite ville de Douz, dans le sud de ce pays. On espère que Hicham Ben Ammar va nous rejoindre sur ce plateau pour l'irriguer aussi de ses commentaires sur le cinéma en Méditerranée. Relation au public, aux réalisateurs, affirmation d'une identité, d'une ligne de programmation, mais aussi au-delà des compétitions, solidarité et mise en réseau. On évoque ces questions tout au long de ce FID Mag, qui vous propose bien sûr aussi toute une multitude de points de vue à travers les sujets et les interviews réalisées par nos chroniqueurs. Et on commence par une chronique, justement. Diagonale d'écran, c'est la chronique de Julien Kirsch, qui a aujourd'hui rencontré Jean-Pierre Rem à propos du film « We Can't Go Home Again » de Nicolas Rey.
Donc là j'y vais. Donc we can't go home again. Nous ne pouvons pas retourner à la maison. De Nicolas Rey, qui est, on peut appeler ça comme ça, son dernier film. En réalité, on va essayer d'en parler. C'est un peu plus complexe parce que il s'agit pas d'un film ordinaire, ni dans les conditions de son apparition, ni dans ses conditions de production, ni dans la réalité de sa fabrication. De quoi s'agit-il? En fait, Nicolas Rey est invité dans une université américaine à enseigner. Et il faut rappeler un tout petit peu peut-être qui est Nicolas Rey, même si je pense que tout le monde a en tête La Fureur de Vivre avec James Dean, Johnny Guitar, un certain nombre de films. De quoi parler ses films? Nicolas Rey, c'est clair, est un cinéaste extrêmement important. Et un des motifs de son importance, c'est que d'une certaine manière, c'est un des exemples de cinéaste moderne. Ça veut dire cinéaste moderne, ça veut dire quelqu'un qui n'a plus de maison à sa disposition. La maison, ce sont les studios, ce sont une narration, ce sont des conditions de production, et une large part de son cinéma, c'est de s'en construire une nouvelle. Mais avec ses mains, avec ses bras, avec ce qu'il y a dans la poche, et surtout avec inévitablement le souvenir d'une maison qui a été perdue, quittée, dans laquelle il est impossible de revenir. Donc, cinéaste moderne pour Nicolas Rey, ça veut dire on est parti, on a été expulsé, on a perdu l'enfance, on a perdu les studios, on a perdu le confort de l'innocence, et perdu en réalité, ça ne veut pas dire qu'il a disparu, ça veut dire qu'il est, il reste présent sous la forme d'une hantise. Donc ça, c'est en gros la situation du cinéma moderne, refabriqué avec un modèle fantomatique en tête, quelque chose qui ne ressemblera jamais, bien entendu, à l'original, et quelque chose donc qui, au fond, d'une certaine manière, est inhabitable. We Can't Go Home Again, je le disais, Nicolas Rey est invité à enseigner, et là il est confronté à des étudiants vis-à-vis desquels il est une espèce de star, mais de star pour eux du passé, d'une certaine manière. Enfin, pas d'une certaine manière, d'une manière certaine. Il est doublement, comment dirais-je, suspecté, à la fois quelqu'un qui vient d'une maison supposée qui est Hollywood, pour ses étudiants qui sont dans l'effervescence post-68arde, et en même temps crédité d'une espèce d'aura. Donc il leur dit, écoutez, moi, si j'ai quelque chose à vous apprendre, un, je l'incarne moi-même, je le représente, je suis cette espèce de pirate vivant, on connaît ses photos, il a cette bandeau sur l'œil, mais je suis convaincu que la meilleure façon d'apprendre, c'est en fabriquant soi, en passant à la maçonnerie, en construisant sa maison, avec des gens qui sont totalement inexpérimentés, puisqu'il s'agit en réalité de créer ce département. Donc, il parvient à convaincre les autorités de l'université de quitter les locaux de cours pour aller s'isoler, d'emmener les étudiants et d'habiter donc ensemble une maison dans une espèce de moment de vie collective et de fabrication collective. Et donc il les emmène à travers des processus d'improvisation où tout le monde est à tous les postes et de façon assez anarchique. Et ce qui est assez étonnant, donc l'enjeu, vous voyez, c'est extrêmement troublant parce que il s'agit au fond de transmettre la possibilité de fabriquer une maison de la part de quelqu'un qui n'en a pas à quelqu'un qui n'en a pas encore et qui n'en a pas forcément ni idée ni envie. Bon, donc le résultat de l'affaire, pour être bref, puisque le temps nous est compté, c'est un film complètement chaotique. C'est un film qui ne s'interdit absolument aucune audace de pauvre, c'est-à-dire qu'il projette les rushs sur lesquels projette du Super 8, il réussit, il découvre. Donc c'est un film d'une hybridation totale et qui comprend en lui son processus de fabrication, work in progress, et pour fabriquer une maison de briques et de broc, l'utilisation de la vidéo. Après un certain nombre d'années à travailler sur cette chose en lambeaux, il va voir Coppola, il visionne pour chercher des fonds et de l'aide à la post-production. Chez Coppola, il y a Walter Murch qui est son fameux monteur, et Walter Murch voit le film comme c'est raconté dans... Walter Murch voit ce film et il dit, bon ben voilà, il n'y a absolument rien à faire, enfin c'est une tragédie, et ce n'est même pas rattrapable parce qu'on est, absolument pas face à un film, enfin on est face à une ruine. Donc, et Walter Murch regarde ça de façon assez conventionnelle, mais d'une certaine manière, ce dont ce regard nous instruit, et c'est manifeste quand on voit le film, c'est une espèce de, à la fois de champ de ruines, où chaque morceau serait appelé à soit poursuivre tout seul son effet de ruine, et en même temps qu'il essaierait de se rassembler pour figurer une maison, un film, voilà. Ça a l'air d'être un film expérimental, dans ses ressources techniques, à la différence près que il n'est pas fini. Il est voilà. Donc c'est un film absolument déchirant, et je pense que c'est un film qu'il faut voir en ayant en tête justement les films pour lesquels Nicolas Rey reste dans notre mémoire. Et il ne faut pas voir ça comme une œuvre qui serait en clos sur lui-même, où Nicolas Rey se serait replié pour donner ultimement son dernier secret. C'est exactement l'inverse. Cet effet de ruine, il est le résultat d'une espèce de pulsion de transmission. Comme si à vouloir donner la maison ou son souvenir, vous la ruiniez. C'est bon ? On est dans les temps. Donc Jean-Pierre M, délégué du délégué général du FI de Marseille.
Vous êtes d'accord ou pas ?
J'ai essayé de dire quelques mots, même un peu chahutés, sur la peine à appeler le dernier film de Nicolas Ray, We Can't Go Home Again, Nous ne pourrons pas retourner à la maison.
Jean-Pierre Rem au micro de Julien Kirsch, où il était question d'une maison, de construire et de transmettre. Possible métaphore de ce qui nous préoccupe sur ce plateau, construire une maison de cinéma, en l'occurrence un festival, pour donner à voir des films. Nous ne retournerons pas à la maison, c'était le titre du film de Nicolas Ray qu'évoquait Jean-Pierre Rem, Nourdine Bendriss, Hicham Ben Ammar, qui n'est toujours pas parmi nous, mais en tout cas Hicham Fallah, qui est bien avec nous. À l'issue du FID, vous allez rentrer à la maison, Tétouan, Tunis ou Agadir. Et cette maison, elle est ouverte au public. Elle montre du cinéma, qui est un art éminemment politique. Au Maroc, sous le règne du précédent monarque, la liberté de parole pouvait mener droit en prison, de même qu'en Tunisie, au temps de Ben Ali. Créer, animer un festival de cinéma, particulièrement documentaire, est-ce que c'est pour vous un engagement au sens politique du terme, Hicham Fallah ?
Politique, je ne sais pas, citoyen, bien sûr, puisqu'en fait, dans un festival, on s'adresse à tous les publics et on travaille particulièrement, en tout cas pour nous, ce qui me concerne, à Agadir, par exemple, dès le départ, dès la création du festival, avec Nza, par exemple, travailler avec les scolaires, donc faire des matinées. Et très souvent, c'est la première expérience pour les enfants, à la fois du cinéma et encore plus du cinéma documentaire, et de leur expliquer des choses de base sur le réel, sur la grammaire cinématographique, la différence avec ce qu'ils voient à la télévision. Donc bien évidemment, pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, j'allais dire, quand vous parlez de politique, je pense que la télé a même beaucoup plus d'influence aujourd'hui avec le satellite, etc., qu'une quelconque propagande qui pourrait être faite par l'État. Donc voilà, c'est une éducation à l'image, et c'est la même chose aussi dans les universités, parce qu'au Festival d'Agadir, on fait aussi des séances spécifiquement pour les étudiants dans le complexe culturel de la fac. Et là aussi, par exemple, aujourd'hui avec Internet, les jeunes ont accès aussi bien aux images, mais à de l'information sur des choses qui se passent très loin de chez eux. Mais ce qu'on se rend compte, c'est que quand on crée le débat, que les créateurs, que les cinéastes viennent les rencontrer, ils ont toujours une très grande curiosité, parce que ils ont besoin de rencontrer les témoins, les gens qui ont vu, qui sont allés réellement là-bas dans d'autres pays. Par exemple, cette année, on avait évidemment des films sur ce qui s'est passé en Tunisie, en Égypte. Évidemment, les étudiants étaient très curieux de rencontrer des cinéastes qui avaient été des témoins, voire des acteurs de ce qui s'était passé. Donc voilà, donc je ne sais pas si on peut parler de politique, mais en tout cas, oui, évidemment, citoyen, c'est une des dimensions très très importantes d'un festival de cinéma et particulièrement de documentaire.
Nourdine Bendriss, cette dimension de citoyenneté, vous y adhérez aussi, j'imagine, mais est-ce qu'elle ne comporte pas de temps en temps la nécessité de négocier, pour pouvoir, dans votre sélection de films, dans votre programmation, pouvoir peut-être repousser un petit peu les limites, pouvoir programmer des œuvres un peu audacieuses ?
Oui, moi, j'ai beaucoup aimé ce que vous dites lorsque vous avez dit que c'est... Est-ce que l'organisation d'un festival, c'est un engagement ? Oui, c'est un engagement, mais aussi, surtout, c'est un défi. Moi, je pars de chez nous. Hein. Donc, c'est vrai que la situation politique n'est pas comme auparavant, mais il y a d'autres défis. Aujourd'hui, on parle de situation financière. Nous avons pas mal de problèmes financiers. Donc, les festivals au Maroc, je ne sais pas comment ça se passe de manière générale, mais pour nous, nous n'avons pas toujours un budget fixe. Donc, nous sommes toujours, déjà, en galère. Hein. Nous sommes toujours à la recherche de budget. Chaque année, on fait la même chose, on fait les mêmes pas, les mêmes démarches. Eh bien oui, c'est vrai, c'est tout un engagement, c'est tout un défi. Mais bon, mais c'est aussi un plaisir. Hein. C'est un plaisir d'aller partout chercher des films. C'est un plaisir de voyager, ne serait-ce que par Internet, pour trouver des films, pour faire une sélection.
On va reparler tout à l'heure de ces réseaux, de la manière de pouvoir découvrir des films et des réalisateurs. Mais de même que le FID n'est pas un festival parisien, les manifestations vous proposées, elles ont lieu à Agadir ou à Tétouan, dans des villes qui ne sont pas la capitale. Alors sur la nécessité d'irriguer le pays en profondeur et pas uniquement de s'adresser à l'intelligentsia qui vit dans la capitale ou les plus grandes villes du pays, Nourdine ou Cham, oui. Nourdine
Oui, il faut dire que notre travail n'est pas pareil. Par exemple, on ne peut pas le comparer avec les autres festivals de l'Europe. Nous avons, dans, je pense que Hicham sera d'accord avec nous, nous avons aussi cette dimension pédagogique. Nous essayons, bien sûr, d'instruire les gens, de les divertir, c'est vrai, mais aussi de les instruire. Donc, dans notre recherche de films, dans notre sélection, on essaie de trouver des films qui peuvent répondre à cette dimension. Donc, le public marocain, le public tétouané, je parle du public tétouané, parce que, vous savez, le public n'est pas le même à Tétouan, à Agadir et à Casawaraba. Donc, nous n'avons pas, c'est le même pays, mais parfois les cultures sont différentes. Hein. Et donc, le public, notre public à Tétouan, il est un peu réticent. Lorsque je parle de documentaire, je dis que nous avons encore du chemin à faire. Donc, nous avons beaucoup de chemin à faire pour familiariser les gens. Et donc, qu'est-ce qu'on essaie de faire ? Donc, on essaie de trouver des films. Moi, j'essaie de trouver des films accessibles, hein, à son entendement et à sa compréhension.
C'est ça, une programmation, c'est mélanger des films audacieux et des films accessibles. C'est construire pierre après pierre et malgré des terrains parfois glissants. Mais c'est aussi, et vous l'avez évoqué, transmettre. On parle de transmission justement dans un instant, juste après la chronique périscopique de Laure qui a rencontré Elsa. Elsa, elle est coordinatrice des rencontres méditerranéennes et elle nous parle des écoles d'art et de cinéma en Méditerranée.
Je suis Elsa Frindic, la coordinatrice des rencontres méditerranéennes du FID Marseille. Le FID Marseille, depuis 4 ans maintenant, a des programmes de rencontres méditerranéennes dans l'optique de l'ouverture à l'espace méditerranéen avec Marseille-Provence 2013, la capitale européenne de la culture. Ce programme regroupe deux volets. Le premier, c'est la coordination des festivals de cinéma de la Méditerranée, appelé FestMed, qui est une table ronde. Et le deuxième, c'est la réunion des écoles d'art et de cinéma de la Méditerranée, avec des étudiants. L'objectif de ces rencontres méditerranéennes pour le FID, c'est de créer une plateforme méditerranéenne d'échange, de rencontres et de collaboration sur les axes de la formation, par justement la réunion des écoles d'art et de cinéma, les étudiants, de la diffusion avec la table ronde FestMed où les directeurs de festivals internationaux de cinéma du pourtour méditerranéen se rencontrent, et de la production, car depuis 2010 aussi, le FID Lab invite de plus en plus de producteurs et de professionnels de la Méditerranée. Alors, les étudiants, en tout, c'est un groupe de 18, qui a des étudiants étrangers et des étudiants français. Donc, les étudiants étrangers, il y a 5 écoles. Il y a l'Institut supérieur de cinéma du Caire en Égypte, l'Institut supérieur des arts multimédia de la Manouba en Tunisie, l'École supérieure des arts visuels de Marrakech, l'Institut d'études scéniques audiovisuelles et cinématographiques de Beyrouth et les ateliers Béjaïadoc d'Algérie. Donc, ils sont deux par école, donc ça fait 10 étudiants étrangers. Et au niveau des étudiants français, il y a 3 écoles, les Beaux-Arts de Marseille, le Master Documentaire d'Aix et le SATIS à Aubagne. Alors pendant le FID, le programme c'est du 4 au 8. C'est pas exactement comme un masterclass, ils ont pas des ateliers, ils se retrouvent pas dans des salles. C'est plutôt un programme, un accompagnement, on leur donne les clés du festival, ils découvrent. Ils ont des projections mais qui sont plutôt consultatives, c'est-à-dire ils vont voir les films qu'ils veulent. Par contre, ils sont invités à FIDLAB, donc ils assistent à FIDLAB. Ils ont une rencontre avec Jean-Pierre Rem, ils ont une rencontre avec Anaël Bourguignon, ils ont une rencontre avec Nicolas Féodoroff, donc respectivement le délégué général, la secrétaire générale et un programmateur du comité de sélection. Et voilà, ils sont là pour rencontrer un maximum de professionnels, des agora avec les réalisateurs. Donc en fait, ils sont libres dans leur choix de parcours, mais ils ont des points de rencontre, des rendez-vous où ils se rencontrent tous les 18 en commun. Il n'y a pas de création, c'est vraiment, ils sont là pour la transmission et les rencontres. Donc pour avoir discuté un peu avec eux, parce que là ils sont là depuis 4 jours déjà, ils ont récupéré des dizaines de cartes de producteurs, de réalisateurs, ils ont pu discuter aux soirées des Bernardines par exemple, où c'est un lieu un peu informel. Ils ont pu discuter des films qu'ils ont vus avec les réalisateurs, discuter avec les jurys. C'est vrai que pour eux c'est unique parce qu'il n'y a pas beaucoup de festivals où on peut comme ça rencontrer les gens... les réalisateurs, le jury, etc. On laisse les écoles choisir parce qu'on estime qu'on connaît pas assez bien les, les écoles pour pouvoir choisir deux étudiants par école. Donc les écoles choisissent, je pense, par rapport aux notes et par rapport aux intérêts des étudiants, ceux qui sont vraiment intéressés par les festivals comme le FID. C'est la deuxième édition cette année. Ça a commencé l'année dernière, c'était un groupe un peu plus réduit. Je crois qu'ils étaient 12, donc comme ça a bien marché, qu'on a eu des bons retours, on a continué cette année, donc en 2012, deuxième édition. Et la troisième édition, pour 2013, ce sera une édition certainement un peu plus spéciale, donc en coproduction avec Marseille-Provence 2013, où là, il sera certainement plus question d'un vrai masterclass avec création. Là, c'est plus, ils sont ici en visite avec clé en main du festival. Ils ouvrent les portes qu'ils veulent et ils découvrent. L'année prochaine, pour la capitale européenne de la culture, ce sera un lieu de création aussi, en plus du festival à visiter.
C'était la chronique périscopique de Laure et on évoquait dans cette chronique les rencontres méditerranéennes, un des aspects de cette 23e édition du FID Marseille. Nous sommes toujours en direct de la Criée pour ce FID Mag spécial autour des festivals en Méditerranée. Alors, Hicham Salah, je vous voyais sourire à l'écoute de ce sujet. Qu'est-ce qui vous faisait sourire ?
Non, je souriais parce que donc parmi les invités, il y a deux étudiants de l'école de cinéma de Marrakech et les deux étaient à Agadir. Et il y a donc Hamza et Jabran, et Hamza a fait le making-of, tourné le making-of de notre festival, donc il sait très très bien comment fonctionne un festival, et donc je l'ai croisé plusieurs fois, donc il fait des comparatifs, il va peut-être aller dans notre festival et voir comment ça s'organise dans les différents festivals, donc on a eu une discussion, c'est pour ça que je souriais, et c'est vrai que la place des étudiants est importante, en tout cas nous, dans notre festival à Agadir, parce que hier, quand on s'est rencontré avec les autres directeurs de festival, ils voulaient parler de l'équipe du FID voulait parler de la part de la programmation nationale, et c'est vrai que dans nos festivals respectifs, aussi bien Tétouan qu'Agadir, c'est vrai qu'on n'a pas une production encore suffisante de documentaires nationaux, donc on n'est pas encore à cette question-là, mais par contre, en tout cas, nous, on a fait le choix cette année de montrer justement des films d'étudiants, parce que j'allais dire, c'est pratiquement le principal production qu'on est, c'est des courts-métrages des étudiants, et justement, à l'école de Marrakech, disons, depuis 2-3 ans, ils commencent à avoir des modules en première, en deuxième année de documentaire, et beaucoup des étudiants qui n'avaient aucune culture documentaire avant d'entrer dans l'école de cinéma, finalement, ça leur donne le goût du documentaire, et j'allais dire, parallèlement au festival où ils peuvent en voir, effectivement, ça commence à prendre, et je pense qu'il y a une génération de cinéastes marocains qui ne se posera plus cette question et qui demain fera à la fois de la fiction et du documentaire. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui a bougé très fortement ces dernières années, donc ces jeunes, j'espère, demain passeront long métrage documentaire.
Alors, Hicham Salah, à l'instant, vous évoquiez que cette réunion qui s'est tenue hier, réunion du FestMed, avait abordé la question de la nécessité ou pas d'une compétition nationale, et il est parfois difficile effectivement de réunir la matière de cette compétition nationale, mais je voudrais attirer votre attention à tous les deux sur cette nécessité de la compétition finalement pour un festival. La compétition, est-ce que c'est selon vous le meilleur moyen de soutenir la jeune création ? La compète, c'est quand même une idée très très libérale. Nourdine ?
Je ne crois pas, moi. Je pense que le premier objectif, il faut être sincère, c'est que ça motive les réalisateurs. Ça les motive. Lorsque vous invitez un réalisateur, vous lui dites que voilà, il y a 3 ou 4 prix qui sont octroyés au film. Donc, ça les encourage. Mais parce que moi, je vous parle de notre propre expérience auparavant, avant que ce soit le festival international, c'était des rencontres cinématographiques, il n'y avait pas de prix. Ça a bien marché, oui, c'est vrai. Mais avec le temps et avec l'apparition d'autres festivals au Maroc, dans le monde arabe surtout, et donc les gens sont plus enclins à aller dans des festivals qui donnent des prix. Hein. Et c'est vrai, hein, tout travail artistique, toute œuvre artistique, il a besoin d'une récompense.
Hicham,
j'allais dire oui par rapport à ce que disait Nourdine, c'est aussi, j'allais dire même aussi, ça peut aussi arriver que ce soit les partenaires du festival, c'est-à-dire de mettre leur nom par rapport à un prix aussi, voilà, aussi bien une collectivité locale comme une ville à Tétouan. Nous, c'est plutôt des
sponsors.
Ouais, voilà, les chaînes de télé qui nous soutiennent, et nous, c'est plutôt des films, les films sont achetés. donc voilà, par la télévision marocaine et par TV5. Donc bon, voilà, ça c'est aussi voilà avec nos partenaires. Et puis après, en tout cas dans le cas du documentaire très particulièrement, ici on est au FID, où très souvent les films sont produits par les réalisateurs eux-mêmes. C'est souvent une des rares manières aussi de gagner un petit peu d'argent et de pouvoir faire le film suivant. Justement, c'est les prix dans les festivals. En tout cas dans le documentaire, ça arrive très souvent. Donc,
L'économie des productions de cinéma est certes fragile, l'économie des festivals ne l'est pas moins. Hicham Fala, à l'instant, évoquait que le FID Adhoc était aidé par la deuxième chaîne de télé marocaine. Je crois que Hicham Benamarki est toujours absent de ce plateau, mais son festival, lui, est soutenu par une compagnie de téléphone en Tunisie. Nourdine, je ne sais pas, je crois que votre festival est aussi soutenu, peut-être par...
Le festival de Tétouan est plutôt soutenu par le secteur public.
C'est une fondation publique.
Voilà, 70% du budget vient du secteur public. Et donc d'ailleurs, déjà, le président de la fondation, c'est un ministre.
Est-ce que ça n'est pas un peu exceptionnel, cette situation qui est la vôtre, d'avoir comme ça une économie qui vienne uniquement du secteur public?
Ça n'a pas été
dans le, disons, Maghreb au sens large.
Oui, ça n'a pas été. Vous savez que le festival de Tétouan existe depuis 28 ans. Donc ça n'a pas été le cas toujours. Donc c'était plutôt... des sponsors privés, mais ils nous ont délaissés avec les années, ils ont un peu délaissé la crise, etc. Et donc nous avons trouvé refuge dans le secteur public. Et lorsque nous avons choisi comme président de la fondation un ministre, et donc lui, avec les contacts qu'il a...
Qui est ministre de l'urbanisme, je crois.
Aujourd'hui, il est ministre de l'urbanisme.
Et qui était ministre de la communication.
Alors, voilà, lorsqu'il a débarqué chez nous, il était ministre de la communication. Alors, vous comprenez bien qu'il a des contacts et que sa parole est un peu entendue et écoutée.
Et cette relation avec monsieur le ministre, avec ce qu'il représente, le pouvoir, elle n'est pas complexe pour vous? On en revient à ce qu'on évoquait au début sur l'engagement politique et la manière parfois de le négocier.
Ça serait mentir de nier qu'il y ait toujours... ce n'est pas clair, la relation n'est pas tout à fait claire, n'est pas tout à fait transparente. C'est un ministre qui est partisan, qui appartient à un parti. Donc, bien sûr, il va essayer d'influencer un peu le déroulement du festival. Mais nous, on est là, on est résistant, parce que au début, c'était un festival indépendant. Et donc, nous, on reste fidèles à notre ligne éditoriale. Et donc, on résiste. Ça a toujours été notre cas, c'est la résistance.
Les villes dans lesquelles vous œuvrez, vous programmez vos festivals, sont des villes dans lesquelles, globalement, il y a un certain tourisme. Est-ce que le moment où vous programmez le festival joue sur cette dimension touristique, peut-être pour élargir la dimension du public, ou bien est-ce qu'au contraire, vous avez plutôt le choix de vous adresser par priorité aux Marocains et plutôt, du coup, hors saison touristique? Quel choix vous faites, finalement, l'un et l'autre? Hicham?
Au départ, nous, les trois premières éditions se déroulaient en novembre. Maintenant, c'est fin avril. Donc, effectivement, ces deux saisons creusent. Et Agadir est vraiment une ville qui a vraiment comme principale activité l'activité touristique. Non, je dirais justement, on essaye. C'est-à-dire que non, le festival est vraiment fait pour le public d'Agadir, pour la population d'Agadir. Et maintenant, justement, c'est quelque chose qu'elle s'est approprié. Et justement, par rapport au danger, est-ce qu'il y a une quatrième édition, etc. On a tout de suite eu, en tout cas, les associations, les habitués, les cinéphiles ont vraiment été derrière nous. Et justement, nous ont aidés aussi à convaincre les autorités politiques. Le maire de la ville savait que le festival avait une vraie existence, qu'il avait une vraie assise maintenant, qu'il y avait un public qui attendait de découvrir ces films qu'il n'avait pas l'occasion de voir par ailleurs. Donc non, il n'y a pas vraiment d'incident, sauf que, évidemment, c'est plus simple, oui, de négocier, par exemple, avec les hôtels, d'avoir des gratuités ou des réductions quand c'est pas dans une période...
C'est en saison creuse. On parle de réseau et de solidarité dans un instant, le temps d'écouter la chronique de Claire Astier. Salut Claire.
Bonjour.
Aujourd'hui, tu as rencontré qui?
Alors, j'ai rencontré hier, en fait, même avant-hier, Ignacy Duarte, qui présente son premier film, Monté Mort. Donc, je vous plante un peu le décor avant qu'on l'écoute. Donc, la première scène, c'est un monsieur assis dans la forêt, bras ballants, un peu hagard, qui donne la note d'intention d'Ignacy Duarte, puisque ce monsieur chantonne « Je ne fais que ce que je veux ». Émergeant de la montagne, dormant dans un lit de feuilles, côtoyant d'autres personnages, il évolue dans Monté Mort à sa guise, sans pour autant qu'on puisse saisir ses mobiles. Il est là, présent avec sa liberté revendiquée, mais aussi avec son vide. Liberté sans contrainte et peut-être par conséquent sans désir non plus. Une forme de stoïcisme qui l'amène à contempler les habitants de Monté Mort, à les écouter ou même peut-être à les imaginer, sont-ils vraiment réels? En effet, si le film s'intitule « Montée mort » du nom d'une petite commune du Portugal, il déjoue nos attentes car rien ni personne ne nous apprend quoi que ce soit au sujet de ce fameux « Montée mort ». Et alors, « Montée mort » était-il un prétexte ? On écoute Ignacy Duarte nous en parler. Bonjour Ignacy Duarte.
Bonjour.
Vous avez intitulé votre film « Montée mort » du nom de la commune dans laquelle il a été tourné. Pourtant, entre contre-plongée et ciel saturé, ces lieux semblent irréels, proches d'un décor. Quel lien l'écriture du film a-t-elle eu avec les lieux ?
El espacio de la película quería que fuera muy abstracto. Está filmado en exterior porque era más fácil.
Donc je voulais que le film soit très abstrait et il m'était égal de filmer en intérieur ou en extérieur, mais c'était plus simple de filmer en extérieur pour des questions de lumière.
Le personnage central du film paraît être un révélateur, parfois Dieu. Sa présence fait exister les habitants des Montées Mort, parfois clown, son regard décalé les rend absurdes. Voulez-vous nous parler de ce personnage ?
En realidad, creo que no hay personaje principal. Hay un personaje que funciona a modo de hilo conductor, pero creo que son tres personajes que tienen la misma importancia, ¿no?
En réalité, je ne pense pas qu'il y ait de personnage principal, c'est plus un fil conducteur, mais il y a trois personnages qui, je pense, sont équivalents en termes d'importance dans le film.
Por otro lado, tampoco creo que sean personajes. Yo pienso más, cuando pienso en ellos, en sentimientos encarnados.
Je ne pense pas non plus que ce soit des personnages, quand je pense à eux, je pense plus à des sentiments incarnés.
Encarnados en un cuerpo, ¿no?
Y... Incarnés dans un corps.
Están más cerca de ser sentimientos, incluso ideas, que personajes con su psicología y todas esas cosas que a mí no me interesaba abordar, ¿no?
Mais ils sont plus proches de sentiments, d'idées que de personnages avec toute une psychologie complexe que j'avais pas envie d'aborder.
Me gusta que pienses que es un payaso porque poca gente lo ve como un payaso y a mí me gusta esta conclusión a la que has llegado, ¿no? Porque significa que tiene un componente tragicómico, humorístico. Y esto es interesante porque me gusta mucho el humor y yo creo que la película está cargada de humor, aunque mucha gente no la ve así, ¿no?
Donc ça me plaît que tu penses que ce personnage puisse être vu comme un clown parce que peu de gens le voient comme ça et ça donne une dimension tragicomique au film et ça c'est quelque chose qui me semble très intéressant bien que peu de gens le voient comme ça.
Transformer le tragique de l'existence en comédie comme il a lui-même transformé un documentaire sur un petit village du Portugal en fable philosophique, c'est peut-être comme ça qu'il faut voir ce film de Ignacy Duarte, qui est donc en compétition premier film et visible à la Vidéothèque jusqu'à la fin du festival. Merci à Aurélie Marciac pour la traduction.
Et merci à Claire Astier pour cette chronique. Claire, on te retrouve demain dans le prochain et dernier Sidmag. Parlons maintenant de réseau et de solidarité à propos de ces festivals en Méditerranée qui fait le sujet de l'actuel Sidmag. Le monde du cinéma, y compris les festivals, est souvent marqué par la concurrence. C'est la guerre des premières mondiales, des exclusivités. On n'a pas toujours l'impression qu'on s'adore dans la grande famille du cinéma, mais plutôt qu'on se regarde un peu les uns les autres du coin de l'œil. Nourdine Bendriss, sur cette question de la rivalité parfois entre projets, comment la dépasser concrètement, Nourdine Bendriss ?
Moi, ce que je pense, c'est ça le problème, c'est qu'il y a une contradiction, c'est que les festivals sont censés créer une sorte de convivialité entre les festivaliers, entre les personnes qui sont présentes. Et que, dans la réalité, cette convivialité n'existe pas entre les festivals. Comme je l'ai dit déjà, c'est la plupart des festivals continuent à se regarder en chien de faïence, de coin de l'œil, comme vous dites. Alors, si je parle déjà, moi, j'ai participé à des tables rondes où on parlait de partenariats, d'échanges. Moi, je pense que c'est un leurre. dès qu'il s'agit d'échanger avec les festivals du Sud, il y a une sorte de réticence, il n'y a pas beaucoup de confiance. Donc moi, j'ai essayé d'établir...
C'est pour des raisons économiques, c'est pour des raisons de territoire. Qu'est-ce qui justifie ce manque de confiance selon vous ?
Moi, je pense que pour nous, notre festival, par rapport à un festival européen, les festivals du Sud ne sont pas vraiment une mine où ils peuvent trouver ce qu'ils veulent. C'est-à-dire que les gens ne viennent pas chercher des films. Tout à l'heure, vous avez parlé du timing. Par exemple, le Festival de Toulon se passe vers fin mars, début avril. Et ce que je remarque pour la plupart des gens, ça coïncide avec la Semaine Sainte. Et que beaucoup de gens viennent passer leurs vacances. Hein? Donc, ils ne viennent pas chercher vraiment des films, voir des films. Et que des fois, j'entre dans des salles, moi, personnellement, pour voir, et je ne trouve pas les invités. Ce sont seulement les habitants de la ville. Les invités sont soit au bord de la mer parce qu'il commence à faire beau temps. Rares sont les invités qui viennent dans les salles. Rares sont les invités qui viennent assister à des rencontres. Donc, vous voyez ? Donc, voilà.
Hicham Fallah, peut-être sur cette question de la défiance entre festivals, cette situation de concurrence, vous le ressentez aussi ?
J'allais dire, ça dépend des échelles des festivals, c'est-à-dire que je pense qu'il n'y a pas de compétition au sens entre des grands festivals comme le Cinéma du Réel, Nyon, le FI de Marseille, je comprends qu'ils puissent vouloir se battre pour avoir la première d'un film. Nous, on n'est pas... Bah voilà, je pense que ça nous concerne assez peu. Après, c'est vrai qu'il y a aussi l'identité du festival et l'échelle du festival. C'est-à-dire que aussi la géographie de la ville. En tout cas, nous, on a essayé dès le départ de resserrer les choses de telle manière que les festivaliers puissent aller à pied, les salles, les hôtels, que tout soit proche, qu'on se retrouve tous au même endroit pour déjeuner à midi. Enfin voilà, il y a des choses comme ça, j'allais dire, d'organisation, de telle manière de créer cet effet de groupe.
Il y a des choses très concrètes qui pourraient s'imaginer, par exemple, sur la question du sous-titrage. Échanger des sous-titres d'un festival à l'autre, ça permettrait d'éviter d'avoir à les refaire à chaque fois, et sans doute ça serait intéressant. Et ça ne se fait pas pour quelles raisons ?
Là, ça dépend. On a abordé la question hier. Il y a une question de droit. C'est-à-dire que moi, je me souviens, pour certains documentaires, justement, on a essayé les différentes techniques. Et maintenant, ce qu'on est arrivé, c'est la chose la plus souple, c'est qu'on travaille avec du doublage, avec deux équipes de traducteurs-interprètes qui le font en direct, en arabe et en français, avec casque. Et maintenant, voilà, le public s'y est vraiment habitué. En général, il y a toujours au moins des sous-titres anglais ou français. Des gens peuvent se dérouler. Donc, parce que on faisait, par exemple, des traductions littérales, par exemple, de tous les sous-titres, et on les faisait, des interprètes le faisaient. Mais après, on leur a demandé, est-ce que la société qui faisait les traductions, d'autres festivals, justement, arabes, nous ont dit, ça nous intéresse aussi de passer ce film-là. Est-ce que vous pouvez nous donner le fichier des traductions ? Et là, la société qui faisait l'interprétariat nous a dit non. Nous a dit non, ou alors il faut que ça passe par nous, et après nous on négocie derrière, etc. Donc voilà, ça. Mais par contre, la discussion se posait pour des festivals français hier. Après, c'est vrai que ce serait peut-être plus compliqué à un niveau international, mais ça fonctionne aussi beaucoup aussi sur les...
Mais en même temps, c'est un vrai enjeu, puis c'est un enjeu simple finalement, celui-là.
Non, mais tout à fait. Donc, c'est vrai que ce réseau des festivals méditerranéens, pour l'instant, est quelque chose de formel. Peut-être que si ça avait une entité juridique, on pourrait peut-être, effectivement, il y a certaines choses qu'on pourrait mutualiser comme ça pour certains films. Parce que, voilà, oui, c'est...
Une hypothèse, donc. On a parlé de circulation des films. Évidemment, pour que les idées circulent, il faut aussi que les gens qui ont ces idées circulent, que les réalisateurs puissent bouger de part et d'autre de cette Méditerranée qui est trop souvent encore une frontière liquide qu'on a du mal à traverser, pour laquelle on a du mal à obtenir des visas et à pouvoir bouger. Circulation, c'est aussi circulation de l'information. Parlons un petit peu des plateformes web en forme de catalogue en ligne qui peut-être aident à pouvoir trouver de nouveaux films, je pense au réseau d'Ocalliance par exemple, ou bien de portails plus spécifiquement destinés aux pros comme FestivalScope. À votre avis, cette capacité de pouvoir trouver des sites internet sur lesquels on a une masse de documentation accessible sur la production récente des films, c'est une bonne chose ou ça déshumanise un peu la relation, ça vous prive de la relation avec les réalisateurs en vrai Nourdine Bendriss.
Moi, je pense qu'on ne communique bien qu'avec la parole et qu'on communique bien qu'en face à face. Mais moi, je considère toutefois que le web est une aubaine, du moins pour notre festival. C'est peut-être un peu fatigant parce qu'il y a un premier travail, un premier moment, c'est de chercher les sites. Un deuxième travail, c'est la lecture d'une centaine de catalogues. C'est un peu fatigant. Moi, je le dis toujours, se rendre soi-même dans des festivals, ça vous permet d'abord de rencontrer des gens, de discuter, d'avoir de bonnes idées. C'est enrichissant pour son propre festival. Ça nous permet aussi de ramener des films. Mais sinon, pour moi-même, c'est plus de 70% du travail que je fais, c'est sur le web.
Hicham Fallin, sur cette utilité ou pas de ces plateformes web, et est-ce qu'elles ne masquent pas finalement la relation possible avec des réalisateurs? On en viendrait peut-être à programmer sur catalogue. Hicham Fallin.
Je crois que c'est un outil. C'est un outil, donc ça dépend de... Enfin, c'est ce qu'on en fait hein, qui compte. Et en tout cas, la spécificité par rapport à notre festival, c'est que Nezha, qui a fondé le festival, et moi qui travaille avec elle, en tout cas, nous, on l'a eu tous les deux, nos approches par rapport à notre autre activité. Elle, c'était une productrice, et moi, je suis réalisateur. Donc, par exemple, cette question de la distance avec les professionnels, on n'en a pas, parce qu'on a chacun, on avait chacun nos réseaux de producteurs et de réalisateurs, et c'est vrai que moi, j'ai confiance des réalisateurs dont j'aime les films ou des producteurs dont je trouve le travail intéressant. En tout cas, ils savent qu'ils peuvent relayer si eux ont aimé un film, s'ils pensent que les films de gens qu'ils connaissent sont intéressants, ils vont nous les envoyer très, très naturellement. Donc, et dans le documentaire, c'est quand même une famille... Donc les gens se connaissent, enfin c'est un artisanat, c'est quand même en tout cas si on parle vraiment des festivals spécifiquement de documentaires, il y a quand même un compagnonnage des différents festivals, le FID comme le Réel, comme Nyon, tous ces festivals nous ont aidés au départ quand on a créé le festival d'Agadir. Pour eux c'était important que justement il y ait un endroit en se disant peut-être demain si le documentaire se développe au Maroc, on sera heureux d'avoir ce lieu où on pourra peut-être un jour aller voir les films marocains et les faire venir, les faire voyager.
On poursuit cette discussion dans un instant, le temps d'accueillir la très attendue chronique de Ciné-B, Bernard Favier et Philippe Bérard. Je ne sais absolument pas, en fait, tous les deux, ce que vous avez vu aujourd'hui ou hier après-midi et qui va faire la matière de votre chronique d'aujourd'hui. Salut Philippe.
Bonjour. Alors aujourd'hui, nous avons vu plein de films, mais nous en avons retenu deux avec Bernard. Le premier, Song Song, qui est un film de Gwendal Sartre, qui dure 40 minutes et qui est un véritable petit bijou. Il s'agit de suivre un compositeur dans son jardin, dans son studio. Il a l'air de faire peu de choses concernant le travail, mais on sait à travers tout le décor qu'il y a de la musique, etc., etc. Et finalement, on s'aperçoit que cette personne, que ce monsieur, que ce vieux monsieur dans ce jardin intemporel, ce jardin touffu qui pourrait être la Pampa, dans la Pampa, ou qui pourrait être au Roucas Blanc, en tous les cas très caché, très mystérieux. Ce compositeur est là et devient, désincarné, totalement désincarné. Et c'est finalement par cette désincarnation que nous voyons qu'il passe à l'acte d'écrire, de composer, etc. Mais on a quand même affaire à un véritable compositeur, donc un monstre, un véritable monstre, puisque normalement les vrais artistes sont des monstres, car ils ne peuvent pas faire autrement que penser à leur travail. Et donc pour filmer un monstre, quoi de mieux qu'un autre monstre? Et donc je suis absolument ravi d'avoir découvert ce jeune réalisateur qui a 23 ans et qui est à la découverte de cette maison qui se trouve effectivement au Roucas Blanc, a totalement déliré et a décidé d'écrire ce magnifique scénario.
Gwendal Sartre, qu'on a effectivement rencontré et dont on a beaucoup apprécié, c'est vrai, Song Song.
Bernard. Le deuxième film, c'est Babylone, d'Ala Eddin Slim, Youssef Chebbi et Ismaël. Ce film retrace une aventure assez terrible qui s'est produite au moment de la révolution tunisienne, Dans le même temps, la révolution libyenne se mettait en marche et des nombreux réfugiés se retrouvaient à la frontière tunisienne et en voulant rentrer en Tunisie pour échapper, non pas à la révolution, mais simplement comme s'il s'agissait d'Africains subsahariens et également d'Asiatiques, ils considéraient que cette affaire n'était pas la leur et qu'eux, ils voulaient avant tout sauver leur peau. Donc, le film filme ces réfugiés et il les filme sans préalable. C'est filmé au débeauté. Le montage existe mais n'est pas réellement visible. Le film dure plus de deux heures. Et vont à la rencontre de ces personnes dans des moments d'extrême tension et de grands troubles. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que le film se déroule, on assiste à des... À la fin, il y a une manifestation de Bangladeshi qui trouve que « I need food » ou « we need food hein. ». On veut manger. Donc voilà, ce film dure un certain temps, 2 heures, j'ai dit, et c'est du cinéma direct, c'est-à-dire il n'y a pas de scénario préalable, il n'y a pas un véritable montage qui scande le film. Le film est touffu comme il est et comme ce qui se passe l'est. Voilà. Donc il repasse demain à 16h15 à la petite salle ici. C'est un formidable document, comme on n'en voit pas à la télévision.
Oui, ce serait un document comme on pouvait voir les documents avant, ce que nous, dans les années 40, on voyait les archives, etc. Non, pour moi, c'est des vrais, c'est les nouveaux documents. On est face à une nouvelle information.
Alors là, là, c'est marrant parce que j'allais dire ce film-là, et en tout cas ma relation personnelle à ce film-là résume à peu près tout ce qu'on a discuté depuis le début. J'ai contacté en fait cette société de production, Exit, en Tunisie. J'avais une programmation à faire. Je les ai appelés au mois de février 2011 et ils étaient en train de tourner le film. J'avais du mal à les contacter. Ils m'ont rappelé quand ils ont commencé à visionner leur rush après 3 semaines dans ce camp. Et donc on a sympathisé. Ils m'ont envoyé par internet. Ils m'ont envoyé des petits morceaux de leur rush, comme ça, des petits plans. Et en fait, moi, j'aurais dit, c'est génial. Enfin, effectivement, c'est absolument pas ce qu'on voyait à la télévision. J'aurais dit, comment vous allez travailler ? Ils m'ont dit, on sait pas du tout ce qu'on va en faire de ces images. Et en fait, le travail de montage a duré 1 an. Et moi, en fait, moi, je suis assez fier. En fait, on a présenté les 20 premières minutes de travail de montage à Saint-Denis, pour lequel je fais aussi une programmation de films pour de films maghrébins. On a présenté les 20 premières minutes et il y avait d'autres gens, d'autres festivals qui ont trouvé ça très intéressant. Ça les a poussés à monter, à faire 40 minutes qui ont été montrées à Belfort. Et sentant qu'il y avait tous ces gens, qu'il y avait tout ce réseau de gens qui appréciaient ce travail, qui voyaient la matière d'un film extraordinaire. Et c'est comme ça, moi je me suis battu pour passer ce film à Gadir. Il ne l'avait pas terminé, c'est le FID qui a l'honneur de le présenter en première mondiale.
Ah, on revient encore à la concurrence entre festivals.
Mais là, voilà, parce que pour moi, c'est un film d'amis, surtout pour moi ce qui était le plus important que ce film existe, et je sais qu'avec la plateforme, avec la visibilité qu'il aura à Marseille, ce film va voyager, et c'est un film, c'est un document, mais c'est un film de 3 cinéastes, de 3 grands cinéastes, c'est un film dont la forme a été travaillée, alors là au niveau du montage, et du montage image, et du montage son, c'est un travail dont, enfin, ça a été un travail titanesque.
On recommande aux spectateurs et aux auditeurs d'aller le voir, bien sûr. Peut-être un mot vraiment, Bernard,
une dernière chose très impressionnante, c'est qu'il n'y a pas de sous-titres. Comme il y a une 20aine de langues, il n'y a aucun sous-titre, le film n'est pas sous-titré. Et c'est ça qui en fait en même temps son mystère. Le spectateur est perdu,
fait sa force,
mais c'est formidable.
Aussi. On va maintenant écouter Thomas Poveda, qui chaque jour nous régale d'une chronique sur les films asiatiques. Thomas, tu as vu aujourd'hui, je crois, et ça n'est pas une erreur, Error de Shingo Yoshida.
Oui, réalisé en 2012, un court-métrage de 11 minutes qui est présenté dans le cadre des écrans parallèles Les Fils du Son. Alors, vous vous souvenez, quand j'ai chroniqué No Form de Tsai Ming-liang il y a quelques jours, j'avais dit que pour lui rendre pleinement justice, j'aurais dû me taire pendant quelques minutes. Bien, c'est un peu la même chose avec Error. Bon, à la limite, je pourrais imiter le grésillement d'un lampadaire, mais bon, j'ai essayé et je le fais assez mal. Non, je le fais assez mal. J'ai vraiment essayé au micro, ça rend pas très bien. Alors, c'est quoi Error ? Error, c'est une succession de plans fixes urbains. En l'occurrence, Shingo Yoshida, il a filmé l'environnement qui se trouve sur son trajet quotidien. puisqu'il part à pied vers Alexanderplatz à Berlin, là où se situe son atelier. Et sur chaque plan, on trouve un ou plusieurs lampadaires, et le tout est accompagné par une musique assez lancinante et onirique, mais qui reste constante hein, tout le long du court-métrage. Alors, il n'y a aucune présence humaine à l'exception de trois plans, où apparaît quelqu'un que l'on suppose être Yoshida lui-même, puisqu'on ne le voit que de dos, voire même allongé sur le sol, hein, à plat ventre dans l'un des plans. Et entre la couleur des plans, qui sont souvent pris de nuit ou avec très peu de lumière, hormis celle des lampadaires bien sûr, la musique et les couleurs, tantôt vertes, tantôt jaune-orange, on obtient une image de la ville qui est très onirique. On se retrouve dans un paysage qui paraît rêver, alors qu'il ne pourrait pas être plus concret, puisque c'est un paysage urbain que quasiment tout le monde connaît. Et les ampoules et les lampadaires s'allument, puis s'éteignent par intermittence. Et c'est peut-être là qu'est l'erreur du titre dans ce dysfonctionnement de l'éclairage et des lumières qui clignotent, qui ajoutent au côté irréel de l'environnement. Et enfin, pour encadrer le tout, Yoshida y démarre et termine son film par un plan d'une maquette d'immeuble de forme cylindrique, elle aussi éclairée, ce qui donne un peu l'impression que tout le film se déroule dans le quartier qui entoure cette maquette. Et ce qu'il faut savoir sur le travail de Yoshida, c'est qu'il aime jouer sur ses rapports d'échelle en mélangeant différentes tailles d'éléments dans ses plans, d'où peut-être d'ailleurs sa présence dans certains d'entre eux, hein, pour rappeler qu'on est bien dans une ville à dimension normale. Alors pour terminer très rapidement, le principal attrait de ce film, à mon sens, c'est qu'il réussit à nous donner l'impression que l'on évolue dans un rêve, en utilisant des images d'environnement très ancrées dans le réel.
Un film qu'on peut revoir ?
Ah non, dernière diffusion, c'était hier malheureusement.
On est effectivement quasiment à la fin de ce festival qui se clôture demain, donc il n'est pas forcément facile de voir encore les films en salle, mais on devrait probablement pouvoir les découvrir tout au long de l'année, puisque le FID organise régulièrement des projections de films tout au long de la saison, puis on espère le voir dans les salles obscures très bientôt. Peut-être pour conclure, et vraiment en deux mots, ce plateau, Hicham Fallah, Nordine Bendriss, qu'est-ce qui serait, selon vous, nécessaire pour développer une culture commune du cinéma en Méditerranée? Et est-ce que, au fond, cette culture commune du cinéma, elle existe, selon vous? Ou est-ce qu'il y a quand même une Méditerranée du Nord, une Méditerranée du Sud? Est-ce qu'il y a une vraie culture commune en matière de cinéma? Nordine Bendriss.
Oui, au niveau des médias, ça existe. On parle d'amitié, on parle d'échanges, on parle de rencontres, mais ce sont principalement des rencontres officielles. Mais actuellement, la réalité est qu'il n'y a pas vraiment d'échange entre les festivals du Sud et du Nord. C'est malheureux, nous avons de l'espoir, ça va arriver peut-être, mais il faut travailler aussi.
Hicham Fallah.
Comme je dis, en tout cas pour les festivals qui sont spécifiquement que documentaires, il y a quand même des liens, il y a quand même une solidarité entre les différents festivals. Mais comme je dis, je pense que ce qui serait important, c'est que l'Europe, la rive nord de la Méditerranée, soutienne quand elle met de l'argent justement sur des programmes de rencontres pour les étudiants, comme ce qui est fait ici au FID, que nous on fait à Agadir, ça serait bien qu'ils soutiennent des initiatives qui se passent entre les festivals du Sud. C'est-à-dire, plutôt que de mettre de l'argent sur des programmes pour faire venir ces étudiants marocains, algériens, tunisiens à Marseille ou ailleurs, que d'essayer de soutenir ces relations entre les différents festivals, entre les écoles de cinéma au Sud, sans décider quel doit être le programme, qu'est-ce qu'ils doivent faire, etc.
Faire du néocolonialisme culturel.
En tout cas, je pense que c'est vrai, ces étudiants, par exemple, ont l'occasion de se rencontrer, vont travailler ensemble, et peut-être que demain il y aura peut-être, je pense, avec des budgets moindres, plus de coproduction entre les pays. Je vois, il y a déjà des cinéastes, en tout cas tunisiens, qui travaillent avec des Algériens, des jeunes qui sont connus par les écoles de cinéma. J'espère que ça va se passer aussi avec les étudiants marocains. Et je pense que si ces films, déjà, si des artistes, des cinéastes travaillent, de ces différents pays travaillent ensemble, forcément ça va aussi aider dans les festivals aussi les films à circuler, parce qu'ils se connaîtront déjà, il y aura une culture commune.
Eh bien, on aura aidé sur ce plateau à faire passer le message à bon entendeur. Salut, merci beaucoup Hicham Fallah, merci beaucoup Nordine Bendriss de votre passage. Bon retour, et on espère peut-être, qui sait, aller vous voir avec nos complices de la grenouille et faire un petit peu la même chose que ce que nous venons de faire ici au FID, mais cette fois-ci au Maroc, dans vos festivals respectifs. Merci donc à tous, invités aussi aux chroniqueurs de ce FID Mag. Rendez-vous à Agadir, à Tétouan, à Douvres, à Béjaïa ou à Lisbonne ou à Beyrouth. Rendez-vous en Méditerranée et rendez-vous ici, en tout cas à Marseille, à La Criée, Pour le dernier FIDMAG de cette 23e édition du FID, ce sera demain à 18h en compagnie de Damien Odoul, réalisateur de La Richesse du Loup. Ce dernier magazine sera animé par Marc Voiry. Adrien Bukowski était à la réalisation de ce plateau en direct depuis la criée. Et spécial coucou à Djilali Amiche qui passe son dimanche après-midi à la radio pour recevoir notre flux. Restez à l'écoute de La Grenouille, ultime rendez-vous World Wild à 19h dans quelques secondes. Diffusion d'un programme élaboré par RBMA, Red Bull Music Academy, et ce sera une émission autour de Nicolas Jarre. On retrouve l'ensemble de ces plateaux réalisés en direct sur le FID Marseille sur radiogrenouille.com. Et merci à tous.
Nel momento.
Un cinéma qui toujours innove, qui expérimente et qui se le reflète son temps.
City as a character within the movie. Now
it's city. Vous tournez très vite, je crois. En général, assez vite. Oui. Mais moi, je trouve pas. Je trouve que les autres qui tournent assez lentement.
Cinéma, cinéma, oui, je sens, je sens que je suis. Je...